France Inter, le 18-20.
Que celui qui n'a jamais eu mal aux dents éteigne la radio immédiatement, que celui qui n'a jamais perdu une dent fasse la même chose, que celui qui n'a jamais soupiré sur le prix de la prothèse qui remplacera la dent qu'il a perdue aille aussi vaquer à autre chose. Je ne suis pas très inquiète, vous êtes encore tout cela. Les dents, c'est comme les yeux, c'est comme les oreilles. D'ailleurs, c'est prévu pour plus tard. Les dents, c'est fondamental pour chacun d'entre nous et c'est aussi, pour certains d'entre nous, considéré comme un luxe. Alors bien sûr, on est nombreux à ne pas aller suffisamment chez le dentiste, ça c'est une chose, on en connaît les conséquences, mais il y avait jusque-là 17,7% des gens qui renonçaient aux soins faute d'argent. Voilà que maintenant, révolution chez les dentistes, et pour ceux aussi bien sûr qui sont dans leur fauteuil, les prothèses dentaires sont remboursées pour tous, le seront intégralement à partir de 2020. Zéro reste à charge, c'est ce qu'avait promis le président Macron, ce sera donc effectif dans 2 ans. Zéro reste à charge avec des dents en céramique devant et en métal côté molaire. Ensuite, deuxième panier, si on peut dire, un panier modéré avec une prise en charge partielle si vous ne voulez pas de métal. Et puis un dernier panier qui serait une sorte de panier haut de gamme pour les autres. En échange du plafonnement du prix des prothèses, celui des caries, des détartrages, etc. peut lui monter et donc tout le monde s'y retrouve. En théorie. En théorie, parce que reste au milieu de tout cela beaucoup de questions. Est-ce que ça veut dire une médecine dentaire à 2 vitesses? C'est beaucoup ce qu'on entend aujourd'hui. Est-ce que les plus pauvres auront des prothèses low cost, en quelque sorte? Est-ce que le plafond fixé est bien conforme aux réalités cliniques de chacun des actes dont on parle? Est-ce que c'est bien le prix qui fera changer les comportements? Souriez, vous êtes dans le téléphone sonne, bienvenue.
Fabienne Synthèse. Le téléphone sonne.
Et bonsoir Dominique, c'est vous qui entamez le téléphone sonne ce soir, bienvenue.
Oui, bonsoir Madame Synthèse et bonsoir à vos invités. Donc moi je fais partie, après chose, j'ai partie des 17% dont vous parliez justement. Je pouvais pas me soigner les dents, je gagnais pas assez d'argent, bref. Et ça fait 3 ans que je suis donc à la CMU. Et c'est la première chose que j'ai fait, je me suis dit je vais m'occuper de mes dents. Donc on m'a mis un appareil en bas. Mais lui, on va même pas en parler parce qu'il fait hyper mal, je le mets jamais. Et l'appareil d'en haut, il se trouve, alors ça va être, c'est un peu technique, mais un peu sordide même, mais il se trouve que j'ai un espèce de, comment vous dire, un truc en ferraille qui me rentre jusqu'au milieu, enfin pas dans le palais, mais qui me recouvre le palais, voilà. Donc, résultat, pas de goût quand je mange, évidemment, et en plus, il me fait mal, donc quand je mange de la viande, quelque chose de dur, ça me fait mal, quoi. Donc, je mange mieux sans qu'avec. Mmh. Bon, ça c'est la première chose. Deuxième chose, j'ai un autre ami, lui vit en Normandie, donc on n'a pas du tout le même chirurgien dentiste, rien du tout, hein, qui lui aussi est à la CMU, et bon, là ça
vous êtes, pardonnez-moi de vous interrompre, Dominique, vous êtes à Toulouse, qu'on ait une
c'est
idée
ça,
de...
C'est d'accord, ça, c'est okay. ça. C'est ça. Et mon ami vit en Normandie, d'accord. Il a aussi la CMU, d'accord. Et on a comparé, bon c'est un peu sordide, on a comparé, vous voyez. Et lui, pareil, lui d'ailleurs, le truc en ferraille, là, qui va dans le palais, il rentre encore plus. Bon. Bref, et j'ai une troisième amie qui, elle, a les moyens de se payer les soins dentaires, etc., qui a aussi un appareil. Alors, elle, il est super bien fait, son appareil, pour le coup. Il n'y a pas du tout de ferraille qui rentre, machin. Il y a juste, bien sûr, la ferraille pour clipper sur les dents saines, hein. C'est normal. Voilà, c'est tout. Autrement, et puis elle, bon, ça fait longtemps qu'elle l'a. Hein. Elle l'enlève pas, machin, pas de problème, elle mange avec, voilà. Donc, je me dis, déjà, en étant à la CMU, il me semble... À mon modeste niveau, qu'il y a déjà une médecine dentaire à 2 vitesses, donc il me semble qu'avec les dents remboursées à 100%, ce sera quand même aussi la même chose. Et pour terminer, je dirais quand même une chose, allez-y. Attention, je ne me plains pas, parce que, bon, bah déjà, ça m'a rien coûté, hein. Il faut bien dire ce qui est. Ouais. Et puis, socialement, etc., c'est quand même plus agréable d'avoir un sourire, un beau sourire, que, bon, des trous dans la bouche ou, excusez-moi, des dents pourries. Mm-hmm. Et pour terminer encore, ce que je veux dire, c'est que j'en remets pas le chirurgien dentiste en cause, parce qu'il m'a fait vraiment du super boulot, lui. Il m'a sauvé des dents, je pensais en perdre plus, hein, je vous le dis franchement. Donc, c'est vraiment le prothésiste, là, que je mets en cause. Hein. C'est lui qui a fait un boulot... voilà quoi. Donc, après, je me débrouille. Ouais. Hein,
et on a bien compris ce que vous nous expliquiez, que vous avez bien décrit d'ailleurs, Dominique. Merci beaucoup. On va revenir d'ailleurs dans un instant sur cet argument qui était le vôtre. En même temps, je me plains pas parce que c'est mieux d'avoir des dents. Et en même temps, oui, c'est vrai. Mais enfin, c'est pas une raison pour en avoir de mauvaises ni que ça fasse mal. Dominique, merci pour l'entrée en matière, pour débattre ensemble tout au long de ce téléphone sonne autour de nous. Nathalie Coutinet, là, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste à l'Université Paris 13. Vous êtes chercheur au Centre d'économie de Paris Nord. Vous êtes membre des économistes atterrés. Bonjour. bonjour à vous, Mathieu Delbos. Vous êtes chirurgien-dentiste, vous êtes vice-président de la FSDL, la Fédération des syndicats dentaires libéraux, et vous êtes le syndicat qui avait manifesté votre hostilité à cet accord. Vous êtes parti d'ailleurs, et vous nous expliquerez pourquoi. Je vais commencer avec vous, le chirurgien-dentiste Mathieu Delbos. Dominique, qui est donc à la CMU, a déjà le sentiment, lui, qu'il y a un soin pour lui, un soin pour les autres. D'abord, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une impression qu'il a, ou est-ce que c'est une réalité, ce que décrit Dominique?
Alors, Dominique, a priori, a des prothèses qui semblent le blesser. Donc, je l'invite à reprendre contact avec son chirurgien-dentiste, en premier lieu, pour qu'il aille faire les ajustages et les ajustements, parce qu'une bouche, c'est un élément vivant, ça bouge tout le temps. Hein, donc, c'est pas parce que la prothèse est posée qu'elle ne nécessitera aucune retouche tout au long de la durée de vie de la prothèse. Pour revenir sur votre question sur effectivement une médecine à deux vitesses.
Est-ce que ça se voit déjà et donc ça risque de s'accélérer? Alors, est-ce que ça se voit déjà?
Il y a une vraie difficulté, mais les chirurgiens-dentistes avaient pris en charge cet élément en faisant leur travail et leur mission de santé publique, en acceptant justement sur les patients bénéficiaires de la complémentaire maladie universelle et aussi sur les patients bénéficiaires de l'aide à la complémentaire santé, d'avoir des tarifs qui sont très contraints. Et quand je dis très contraints, c'est des tarifs qui sont en dessous du coût réel de réalisation des actes. Alors, certains peuvent peut-être, malheureusement, il y a dans toutes les professions hein, des éléments qui ne sont pas forcément les plus éthiques, mais chaque chirurgien-dentiste s'engage par son code de déontologie à soigner tout le monde de la même manière.
D'accord, donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que là, il y a quelqu'un qui a visiblement mal fait son travail de Dominique?
Non, je ne sais pas pour Dominique, c'est
que,
un ensemble de choses.
Disons les choses, Mathieu Delbos, disons les choses très clairement, est-ce que ça veut dire que dans ce genre de cas, pour aller plus vite, parce qu'effectivement ce sont des actes qui ne rapportent pas, etc., le chirurgien-dentiste va plus vite avec quelqu'un comme Dominique qui le ferait avec moi ou avec vous dans la même situation?
Alors, éthiquement, ça me semble inconcevable pour moi. Hein. Je vous le dis, les pratiques de chacun sont individuelles, mais pour mon cas personnel, ça me semble complètement illusoire de se dire que parce que Dominique est bénéficiaire de la CMU, il faudra aller plus vite.
Donc ça veut dire aujourd'hui, qu'il n'y a pas de low cost.
Mais aujourd'hui, nous avons la possibilité. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de prendre sur nous de réaliser ce type d'éléments parce que nous avons une capacité financière dans nos petites entreprises de répartir différemment certains coûts.
Ce qui sera plus le cas après, Nathalie Coutinet, sur est-ce que l'économiste que vous êtes, est-ce que le low cost en matière de médecine de toute façon existe déjà, et est-ce qu'on risque avec ce genre de réforme selon vous de s'acheminer vers plus de low cost ou pas?
Ah, malheureusement, je crains que oui, effectivement. D'abord, le zéro reste à charge, donc peut-être pour nos auditeurs, le reste à charge, c'est ce qu'on appelle à payer hein, pour les ménages. Donc c'est ce qui n'est pas pris en charge par l'assurance maladie.
Qui pouvait monter jusqu'à autour de 200 euros aujourd'hui. Alors, c'était la raison pour laquelle il y avait peu de gens qui allaient...
Tout à fait.
Ceux qui n'avaient pas les moyens n'allaient pas se faire une prothèse.
Tout à fait. Et vous avez donné les chiffres du renoncement moyen aux soins pour les soins dentaires, et c'est beaucoup plus, hein, c'est plus d'un quart, c'est près d'un quart pour les 40% d'entre nous qui sont les plus pauvres. Donc déjà, il y a une inégalité face aux soins, puisque ce sont chez les plus pauvres que le renoncement aux soins est le plus important. Alors quant à la médecine à deux vitesses, parce qu'on peut étendre, hein, bien sûr qu'on va vers un système, malheureusement, qui ressemblerait quelque chose de l'américain, hein, le système américain, c'est-à-dire un système dans lequel on aurait, pour les personnes les plus nécessiteuses, des soins un peu de base, et puis du plus haut de gamme pour les personnes qui sont en capacité de payer.
Mais attendez, on vient nous expliquer, Mathieu Delbos, vous venez nous expliquer qu'on soignait fort heureusement, évidemment, un patient qui est à la CMU, aussi bien que n'importe quel autre. Donc en quoi est-ce que la prothèse de celui qui jusqu'à présent n'allait pas chez le dentiste sera moins bonne aujourd'hui que celle de quelqu'un qui avait l'habitude d'aller chez le dentiste? Il n'y a aucune raison, en fait, qu'il y ait ces deux vitesses.
Pour revenir juste un petit peu sur un propos, vous nous avez dit qu'effectivement les plus pauvres étaient ceux qui renonçaient le plus aux soins, ça paraît assez logique, mais nous avons quand même dans notre pays la chance d'avoir des systèmes de rattrapage sociaux qui sont la couverture maladie universelle et l'aide complémentaire à la santé, qui donne droit aujourd'hui à une offre de prothèses totalement plafonnée et en tiers payant. Hein, c'est-à-dire que pour la partie remboursée, parce que c'est pas totalement remboursé pour les patients bénéficiant de l'ACS. Ça dépend du contrat qu'ils ont. Alors, Pour revenir sur les paniers.
La question c'était pourquoi est-ce qu'on dit qu'il peut y avoir un low cost à partir du moment où on soigne chaque patient exactement de la même manière et que ma dent en céramique devant sera exactement la même que la vôtre en fait.
À partir du moment où on définit trois types de gammes a priori, par définition, on décide qu'il y en a une qui est mieux disante que l'autre, à technique équivalente. Maintenant, quand on regarde vraiment dans le fond la problématique, elle est que les soins innovants, les soins les permettant le plus la préservation de l'organe dentaire, ne sont pas les soins pris en charge, ne seront pas les soins dans le reste à charge zéro. On va offrir une prothèse qui est un élément terminal pour une dent.
Oui, mais enfin, c'est quand même vachement pratique d'avoir une prothèse, excusez-moi, quand il vous manque une dent devant. Enfin, je veux dire, à un moment, d'un point de vue pragmatique, je pense à Dominique qui nous écoute sûrement encore. Dominique n'avait pas de dents, il va pouvoir avoir des dents. C'est quand même vachement bien, excusez-moi.
On est tout à fait d'accord.
C'est très bien, effectivement. Il faut quand même rappeler la CMU. Alors, chez les dentistes, je ne sais pas, mais on sait très bien que beaucoup de médecins refusent les patients CMU. Donc, les patients CMU n'ont pas forcément tout à fait le même accès aux soins que les patients qui ne sont pas CMU. Et le deuxième élément qu'on peut rappeler, c'est que ce reste à charge, il va être pris en charge, parce que ce remboursement est pris en charge par les mutuelles, par les complémentaires santé. Or, on sait que tout le monde n'est pas non plus à égalité face aux complémentaires. Donc, on a beaucoup de niveaux d'inégalité.
Et on verra d'ailleurs ce que diront les complémentaires qui, pour l'instant, ne disent rien et qui diront effectivement si, à ce moment-là, les tarifs augmentent. Je voudrais qu'on avance avec Romaric. Bonsoir, Romaric.
Oui, bonsoir.
Bienvenue, soyez le bienvenu, allez-y.
Bonsoir aux invités. Voilà, ben moi je rebondis pas sur la problématique du CMU parce que c'est pas l'objet de ce soir, mais il y aurait plein de choses à dire. Moi j'apporte juste mon témoignage en tant que chirurgien dentiste installé depuis 15 ans en province, à Besançon. Et je voulais juste vous faire part de mon dégoût et de mon abattement devant cette réforme démagogique qui n'a pour moi qu'un seul but, c'est de désengager progressivement l'État donc de l'effort de santé au profit des puissantes mutuelles qui se frottent les mains devant la financiarisation et l'évolution moins-disante de notre système de santé. Il n'a pas pour but d'améliorer la qualité et l'offre des soins, malheureusement. À titre personnel, moi j'ai fait le choix, je pense, dans mon approche professionnelle de la qualité avec un plateau technique développé qui sous-entend des charges mensuelles très importantes. J'ai deux employés au sein de mon cabinet pour prendre en charge le mieux possible mes patients. Je travaille avec un laboratoire de prothèses local à 3 km de chez moi qui embauche 6 personnes sur place. Et parallèlement à tout ça, j'ai mis en place également une formation continue de qualité, j'espère, puisque j'ai passé plusieurs diplômes universitaires, notamment au sein de la faculté de chirurgie dentaire de Strasbourg. Et avec cette réforme liberticide et aberrante, pour moi, sur bien des points, je ne pourrais, je pense, plus garantir cette même offre de soins à tous mes patients.
Et pourquoi, attendez, Romaric, excusez-moi, mais pour les, je voudrais juste rappeler qu'on ne fait pas un téléphone sonne uniquement pour les dentistes, mais surtout pour ceux qui vont se faire soigner les dents. Je voudrais qu'on comprenne bien, encore une fois, en quoi, et on a bien compris dans ce que vous avez décrit, jusqu'à quel point vous faisiez bien votre travail et le soin que vous preniez à vos patients, je voudrais savoir en quoi le fait que désormais tout le monde peut se faire faire des prothèses, y compris devant, en quoi ça devient plus compliqué pour vous?
Parce que l'équilibre financier va être modifié, parce que ça fait 20 ans...
Pardon, en quoi l'équilibre financier sera modifié? Pourquoi votre équilibre financier...
Laissez-moi développer, si je peux me permettre. L'équilibre financier va être modifié, parce que ça fait quand même plus de 25 ans que lorsque l'on soigne, donc je parle des soins conservateurs, que l'on soigne correctement avec un plateau technique décent, on travaille à perte. Mais ça, tout le monde s'en fiche, personne n'en parle. Et c'est seulement lorsque l'on réalise des soins prothétiques que l'on va gagner notre vie. Alors, si on veut bien croire les politiques, même les gouvernements précédents, on la gagne sûrement beaucoup trop par rapport aux services rendus, mais c'est comme ça que ça se passe. Mmh. Alors là, on nous fait miroiter une réévaluation de la valeur des soins conservateurs.
Ouais. Donc les caries, les tartrages, etc. seront plus chers pour compenser.
Bien sûr, totalement insuffisante. On parle, par exemple, pour une extraction de dents temporaire chez un enfant. En ce moment, on est payé 16,72 €.
D'accord.
Ça va passer à 23 €. Alors après, on entend dans les médias qu'effectivement, les soins conservateurs vont être augmentés de 50%. Mmh. Mais c'est pas le cas pour tous les actes. Et malgré cette revalorisation, quand on fait bien le travail, qu'on essaie de bien le faire, qu'on passe le temps qu'il faut, on travaillera toujours à perte sur les soins conservateurs et contrepartie, ben, on aura un plafonnement des actes prothétiques.
D'accord. Romaric, on a compris ce que vous nous disiez et où était votre dégoût, c'est le mot que vous avez employé tout à l'heure en prenant la parole. Mathieu Dalbos, est-ce que effectivement les chirurgiens dentistes vont finir par travailler à perte avec cette...
Non, mais c'est pas qu'ils vont finir.
Qu'ils travaillent déjà à perte et que ce sera pire.
Grosso modo, dans un cabinet dentaire, vous avez 75 à 80% de l'activité qui est totalement prise en charge par la sécurité sociale et les mutuelles. Ce qu'on appelle le soin conservateur ou la prévention que l'on fait nous-mêmes sans aucun remboursement et que la plupart du temps les confrères offrent à leurs patients. Et vous avez 25% de l'activité qui est le soin prothétique et sur laquelle effectivement l'économie est la marge nécessaire pour l'investissement, pour employer du personnel, pour pouvoir acheter des prothèses de qualité à nos prothésistes français, hein, parce que il faut quand même aussi parler de toute la filière de prothésistes françaises qui risque malheureusement avec ce genre de mesures de souffrir, alors qu'ils souffrent depuis déjà de nombreuses années avec les évolutions. Automatiquement, il va y avoir un moment où ça peut coincer. Ça va coincer pour à peu près, d'après les chiffres de l'UNCAM, de la Sécurité sociale, pour 30% des praticiens. Laisser 30% de la profession sur le bord de la route, ça fait beaucoup. Ça fait trop. Et d'une autre manière, le
30% des cabinets dentaires vont fermer.
J'ai pas dit aller fermer, j'ai dit aller souffrir.
D'accord.
Le revenu des dentistes, hein, j'ai cherché les chiffres, hein, vous vous en doutez. Enfin, je pense pas que ça va faire pleurer nos auditeurs. Hein. Alors, j'ai pas des chiffres récents. Mais les dentistes gagnent environ, en moyenne, un peu plus de 7000 euros par mois, autour de 7500, ce qui est quand même très largement au-dessus de ce que gagnent nos concitoyens. Et en chiffre annuel, on est autour de 100 000 euros, en moyenne, je fais simple. Alors, pour donner un ordre de grandeur, un médecin, c'est plutôt un général c'est autour de 86 000 et une sage-femme c'est 30 000. Donc je ne pense pas que la survie financière des dentistes soit menacée par cette réforme. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres soucis qui se posent en termes d'inégalité pour nos concitoyens face au remboursement plutôt que difficulté des dentistes.
Enfin, là, je ne vais pas disserter sur le revenu, le juste revenu du chirurgien dentiste, de mes confrères, de mes consoeurs. C'est un ensemble. Il y a énormément de disparités.
Bien sûr.
Prendre une moyenne est assez étonnante. Hein,
certes.
Parce que vraiment, vous niez beaucoup de disparités.
Certes.
Mais au-delà de ça, le fondamental de cette proposition, effectivement, pour le patient, c'est un bien de pouvoir s'équiper en prothèse.
Voilà, mais le problème, c'est bien aussi de le rappeler un moment
mais
pour que les choses soient équilibrées. C'est bien de rappeler aussi qu'une
mais
dent.
Mais le cœur de mon métier, au-delà de la réparation, c'est de préserver la dent. La dent, c'est un organe fini. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça ne se répare pas. Quand vous avez une coupure sur la peau, vous refabriquez de la peau. Quand il y a une carie, c'est fini.
Donc, attendez,
on ne refabrique pas de la dent.
Je comprends ce que vous dites.
Donc
il faut prévenir plus qu'être obligé de guérir au moment de la prothèse.
Tout à fait. L'idée aujourd'hui qu'on devrait se poser, c'est pas... On peut se la poser sur, effectivement, le coût de l'équipement, etc. Mais pourquoi a-t-on encore besoin d'une couronne? Alors tout le monde va dire, oui, les disparités individuelles. Mais regardons ce qu'a fait l'Allemagne. L'Allemagne a décidé de changer de modèle en 91, lors de la réunification. Depuis 91, moins 41% du nombre de soins de caries. Pas parce qu'ils accueillent moins de patients, parce qu'ils en font moins, parce qu'ils sont mieux suivis. Moins 25% du nombre d'extractions.
Ça veut dire qu'il faut changer les pratiques chez nous, qu'il faut
changer. Ça veut dire qu'il faut permettre les changements de pratiques, les changements de modèles. Aujourd'hui, le projet de convention ne le permet pas. Au niveau prévention, dans ce projet de convention, c'est l'accueil de l'enfant de 3 ans. C'est très bien, mais c'est totalement insuffisant.
Bonsoir Fabien.
Oui, bonsoir.
Et on vous écoute Fabien, allez-y.
Ben voilà, en fait, je voulais apporter ma parole à l'antenne. Merci de la prendre. Voilà, en fait, je suis prothésiste dentaire sur la région de Strasbourg. Et je voulais parler des prix des prothèses dentaires, parce que c'est un sujet dont on ne parle jamais, j'entends rarement de prothèses dentaires s'exprimer là-dessus. Donc en fait, pour faire simple, on va prendre un cas simple, la couronne Ferramo métallique. Actuellement, dans ma région, la couronne est vendue au dentiste au prix d'à peu près 120 euros. Ça, c'est le coût de la prothèse pour le dentiste. Mmh. Le dentiste la revend à son patient environ 600-700 euros. Mais il n'a pas de travail là-dessus. C'est simplement la marge qu'il se prend entre l'achat et la revente. Donc, quand on me dit que le risque, c'est d'avoir de la prothèse low cost, quand on achète de la prothèse en Chine, il va la payer moitié, la moitié du prix, donc une soixantaine d'euros. Donc, la menace qui pèse sur les dentistes aujourd'hui, c'est sur une prothèse de perdre 50 euros à peu près. Donc, pour moi, c'est un faux débat. Vous parliez avant du salaire du dentiste qui est à 7500 euros par mois. C'est grâce à ça. C'est parce qu'il fait une marge énorme sur la prothèse au détriment du patient qui, des fois, ne peut pas se la payer. Alors qu'à l'arrivée, une céramique coûte une centaine d'euros.
Merci beaucoup Fabien. Évidemment, autour de la table, on a envie de parler des chiffres que vous nous avez donnés, Nathalie Évidemment. Coutinet. Je sais que vous voulez intervenir sur les chiffres, Mathieu Alors, Delbos.
J'ai été très très surpris, au-delà des chiffres, effectivement, une couronne céramo-métallique est facturée en moyenne en France par le prothésiste entre 120 et 150 euros.
Qui est le basique
euros,
de la couronne, on va dire.
Qui est aujourd'hui la couronne basique avec du blanc.
D'accord.
Hein, si on veut parler clairement. La moyenne de facturation en France, chiffre de l'UNCAM, est de 540 euros, pas 600-700 euros. Alors peut-être que dans la région de... C'est Fabien, je crois, notre auditeur. C'est cette moyenne-là, je ne connais pas. Je tiens juste à... Quand même, j'ai été très très surpris du mot où on nous a dit qu'il n'avait rien à faire, le chirurgien-dentiste. J'imagine que le chirurgien-dentiste n'a pas posé de diagnostic, n'a pas préparé la dent, n'a pas fait d'empreinte, n'a pas passé de temps, n'a pas analysé la fonction de l'ensemble de la bouche, n'a pas traité d'abord la dent au préalable et n'a pas pris en charge dans la globalité son patient. S'il était si simple de faire une couronne, à ce moment-là, à 120 euros, si c'était juste une marge, je commanderais une couronne à mon prothésiste et je demanderais au patient de se tailler lui-même sa dent finalement. Et ça devient un peu plus compliqué, hein, vous le comprenez bien.
Nathalie Coutinet, vous vouliez intervenir.
Oui, je ne vais pas intervenir sur les soins dentaires parce que je ne suis pas compétente, mais je pense que là, il y a un sujet qui est intéressant, c'est de savoir comment, finalement, cette perte des dentistes va se répercuter sur la chaîne de production. Et effectivement, on peut imaginer assez aisément qu'il y a une pression sur les prothésistes pour qu'ils réduisent leur coût et donc d'essayer de les faire produire ou d'exporter des dents d'autres pays peut-être où c'est moins cher. Et à l'inverse aussi, on peut imaginer qu'on va avoir aussi une augmentation des soins les plus chers pour compenser finalement ce manque à gagner sur le milieu. Donc effectivement, ça va sans doute faire bouger les tarifs de l'ensemble de la filière, si je peux appeler ça une filière, de la fabrication de prothèses et puis des différentes gammes.
Mon prothésiste est mon partenaire.
Et puis de toute la gamme.
Alors ça les fera bouger, mais est-ce que c'est une mauvaise nouvelle ou pas finalement, ou est-ce que ça les rééquilibrera, ou est-ce que ça les fera bouger
si c'est sur le sous-traitant, si c'est sur le fournisseur qu'il y a une pression, ça peut être compliqué, effectivement, pour les prothésistes de voir leur marge à eux réduite, voire de faire importer de la dent de l'étranger. Je pense que ça existe.
Et si on regarde un petit peu, c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas de données sur l'importation aujourd'hui de prothèses dentaires. Il n'y a aucun contrôle au niveau douanier, donc tout est possible. C'est aussi très compliqué de faire un contrôle qualitatif du produit. Il faudrait faire un contrôle destructif. Donc c'est un peu compliqué de dire, bon, on va contrôler votre dent, mais il faut la détruire avant de vous la mettre. Donc ça devient un petit peu le serpent qui se mord la queue. Au-delà de ça, quand on regarde, ils sont identifiés les laboratoires qu'on appelle d'importation dans notre métier, donc ils font travailler en Chine, à Madagascar.
Mais ça se trace une prothèse de toute façon, non? C'est comme n'importe quel autre type de produit, on sait normalement
si on veut la tracer,
d'où elle vient, où elle a été fabriquée, par qui.
C'est chacun fait son bon de traçabilité qui est remis effectivement au chirurgien dentiste. Ce que je veux dire par là, c'était que quand on additionne les chiffres d'affaires de ces sociétés qui font de l'importation, on tombe sur à peu près 10% de la prothèse qui vient de l'importation aujourd'hui. Et demain, c'est une quadrature du cercle, c'est évident. Comme il faudra aussi qu'on parle sur le risque pour les patients d'avoir leur cotisation de complémentaire santé qui
Alors,
risque d'augmenter. Et comment,
ce sera le problème
et comment va
après,
se répartir le remboursement
c'est un
dans ces paniers.
Parce que M. Macron nous a indiqué qu'il prenait le reste à charge, mais pas financé par l'assurance maladie.
Non, non.
C'est là la petite entourloupe.
Et c'est même assez étonnant parce que.
1,2 milliard, c'est les mesures sur 5 ans, 717 à la charge de la Sécu, 505 pour les complémentaires.
Voilà, c'est les complémentaires, donc ça veut dire que vraisemblablement...
Et la mutualité française, pour l'instant, n'a pas dit...
N'a pas accepté encore, on n'a
voilà,
pas...
Exactement. Voilà, exactement, n'a pas dit ce que ça pouvait induire.
Mais effectivement, ça veut dire que ça va peser sur les complémentaires qui vont donc répercuter ça sur nos primes d'assurance maladie, vraisemblablement. Et puis, moi, je voudrais quand même insister sur le fait qu'il y a encore une partie de nos concitoyens qui n'ont pas accès à la complémentaire. Il y a des poches de population. Alors c'est pas très joli de façon de parler, mais c'est des poches de population qui n'ont pas accès à la complémentaire et la généralisation l'organisation de la complémentaire d'entreprise n'a pas tellement changé ça parce que c'est pas des salariés, ça s'adressait à des salariés et ce ne sont pas des salariés qui ne n'ont pas de complémentaire, donc quid et pas la CMU, etc. Donc quid de ces populations. Et puis encore une fois, les contrats complémentaires ne sont pas égaux selon la situation sociale.
Alors quid
et
de
là,
quid...
Et là, il y a des inégalités. Et donc c'est plus la sécurité sociale qu'on avait avec un accès aux soins identique pour tous. On en revient un petit peu à votre question de départ. C'est effectivement des soins différenciés selon votre complémentaire, votre niveau de revenu. Voilà. Et c'est ça qui est embêtant parce que je suis d'accord avec vous, c'est bien.
Et ça, pour le coup, ça, c'est une méthode à l'américaine où, en fonction, effectivement, du type de couverture et du type de mutuelle, on a tel ou tel type de soins.
C'est ce que je vous disais au début, on est dans un système qui s'américanise un petit peu.
On parlait de l'exemple de l'Allemagne tout à l'heure, puisqu'on est en train de faire des comparaisons diverses. Je voudrais qu'on écoute Anne. Bonsoir, Anne.
Oui, bonsoir.
Soyez la bienvenue, Anne, on vous écoute.
Merci. Alors, moi, je voudrais juste faire une petite remarque, en fait, parce que je vous écoute depuis avant. Moi, je vais vous dire très sincèrement, ça m'était complètement égal combien un chirurgien dentiste gagne ou quoi que ce soit. Ce qui m'importe, c'est que je sois bien soignée. Et justement, à ce propos-là, en fait, sur TF1, j'ai vu aux informations dernièrement que le modèle français a été calqué, en gros, sur le modèle allemand. Alors moi, j'ai vécu en Allemagne, j'ai de la famille en Allemagne. Je sais que les gens, quand ils se rendent en Allemagne pour faire des prothèses, leurs remboursements sont augmentés en fonction de leur assiduité, des visites. Donc, est-ce que ça va être le même cas en France? Et puis aussi, un truc très très important, parce que j'ai des enfants, il y a un système de prévention qui est mis en place en Allemagne. Les enfants sont pris en charge dès le plus jeune âge. Ça réduit beaucoup le nombre de caries chez les enfants. Est-ce que justement... ces mesures-là vont être mises en place de la même façon qu'en Allemagne.
On a entendu vos questions, Anne. Mathieu Delbault, d'abord.
J'imagine que la question s'adresse principalement à moi. Je vais pouvoir vraiment vous répondre très techniquement.
C'est un peu vous.
Alors, effectivement, en Allemagne, vous avez un bonus de remboursement de prise en charge de la prothèse ou des soins orthodontiques lorsque vous êtes assidu. Vous avez plus...
Assidu, ça veut dire quoi?
Ça veut dire une visite par an.
D'accord.
Et vous avez plus 10% au bout de 3 ans et plus 25% au bout de 10 ans.
C'est marrant, c'est pratique, mais c'est pas inintéressant.
Mais c'est totalement intéressant, puisqu'en fait, en réalité, si on revient tout à l'heure à ce que je vous disais sur le fait d'éviter la couronne ou d'éviter la prothèse, d'éviter la perte de la dent, puisque ça ne se répare pas, il y a trois moyens simples. C'est parler de ce qu'est l'hygiène bucco-dentaire, comment la pratiquer, comment l'apprendre. J'ai personnellement appris à me brosser les dents et entretenir mes dents quand je suis arrivé en faculté de chirurgie dentaire. J'ai découvert un monde que je n'imaginais pas. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est évidemment des conseils alimentaires. Et il n'y a pas que le sucre, il y a aussi la manière de manger dans la journée, l'acidité d'une bouche, et évidemment le contrôle régulier, le dépistage régulier. Ensuite, pour revenir sur les enfants, aujourd'hui en France, c'est actuellement à partir de 6 ans, donc c'est très tardif, l'entrée du contrôle offert par l'assurance maladie, et à une moyenne de tous les 3 ans. C'est trop lâche. Alors dans le projet, ça va commencer à 3 ans. C'est une mesure que nous portions, nous en sommes tout à fait contents. Mais nous aurions préféré qu'on repasse au modèle annuel qui avait existé précédemment. Je vous prends un autre exemple. Quelque chose qui m'a un petit peu, au sein de la négociation, un peu heurté en tant que praticien. On nous dit, on va prendre en charge les fluorations. Les fluorations, ça consiste à appliquer du fluor sur des dents pour éviter qu'on fasse des caries. Une application professionnelle et des concentrations plus importantes que ce qu'on a dans le dentifrice et autres. Au départ, on nous a proposé 3-6 ans sur les dents de lait. C'est pas très pratique pour une dent qui va durer très longtemps. Ensuite, on a proposé que ça soit un petit peu plus étendu sur la période jusqu'à l'adolescence, qu'on puisse passer le cap. Et là, la réalité financière nous a dit, ah non, 6-9 ans. Ça coûte trop cher. Voilà. Donc le problème à un moment, c'est qu'il va falloir qu'on décide ce que l'on veut faire pour le soin bucco-dentaire, qui, je le dis quand même, représente moins de 2% du budget de remboursement de l'assurance maladie par an. Moins de 2%.
Oui, mais pas des complémentaires.
Ah, pour les complémentaires, c'est justement une des vraies questions, c'est que font-elles?
Et pourquoi,
que font-elles?
Pourquoi
parce que depuis tant d'années...
Dans les réseaux pour justement... Alors, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, mais c'est les réseaux de soins ou les réseaux de conventionnement sélectif qui ont l'air de fonctionner un petit peu en optique et en audioprothèse. Et pour le moment, les dentistes...
Vous savez que nous avons un code de dentologie où nous n'avons pas le droit de pratiquer à type de soins équivalents des tarifs différents. Or, quand on vous demande... Oui, il y a la loi Leroux qui organise le remboursement différencié. C'est-à-dire que vous, en tant que patient, vous perdez d'une certaine manière la liberté de choix de votre praticien, puisque au final, vous pouvez avoir des différences de prise en charge par vos complémentaires de plus de 300%. Mm. On essaye de faire une pression par le remboursement. D'ailleurs, dans ce projet de convention, la Sécurité sociale a tenté de le faire sur la prise en charge de la couronne, en ne voulant pas réaugmenter la prise en charge de la couronne du dernier plafond, et du dernier panier, et finalement, elle se fera que 2 ans après. C'est fondamental, ces choses-là, parce que en réalité, c'est réduire le chirurgien-dentiste à un poseur de prothèses. Moi, personnellement, quand je prends en charge mon patient, je le prends en charge de A à Z. Je lui fais sa prévention, son détartrage, ses caries. Et quand il a besoin d'une prothèse, sa prothèse, qu'on essaye d'éviter. Il serait quand même très étonnant que juste pour la prothèse, le contrat de soins et de confiance, qui est quand même la base pour un patient. Mmh. Je suis aussi patient, hein, je ne confie pas mes dents à n'importe qui. J'ai confiance dans mon praticien. Ce n'est pas qu'une addition financière. Ah non! Ça rentre dans l'équation, certainement, dans la prise
bien
de décision.
Sûr, on peut avoir confiance dans sa qualité.
Je voulais revenir sur le chiffre que vous aviez annoncé sur le taux de renoncement. Pour le taux de renoncement, 17%. Pour raisons financières, en 2015, dans la source et l'adresse, dans les dépenses de santé en 2016, c'est 3% de besoins non satisfaits pour raisons financières.
Et ça varie de...
Enfin, les chiffres avancés étaient plutôt de 17,7%. Mais encore une fois...
Et nous avons aussi où ça varie selon la question.
Sur les soins prothétiques, les renoncements sont bien plus importants.
Enfin, on ne va pas faire comme s'il n'y avait pas de problème.
J'ai pas dit qu'il n'y en avait pas.
Vous êtes en train de nous dire qu'en même temps, 3%, ça ne représente pas grand-chose. D'abord, effectivement, il peut y avoir un problème sur le chiffre sur lequel, effectivement,
le vrai problème
n'est pas tout à fait d'accord. Mais enfin, qui a un problème de... Je veux bien entendre tous vos arguments, mais qui a un problème de soins trop chers, ça existe quand même.
Alors, trop cher, non. Que c'est quand on se compare au reste de l'Europe... Eh oui, quand on se compare au reste de l'Europe, nous avons des prothèses exactement dans la moyenne des pays de même niveau de vie. Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Angleterre pour la partie hors NHS. Et nous avons des soins qui sont 2 à 3 fois moins valorisés que dans ces pays. Et une prévention quasiment inexistante. Nous n'avons que du dépistage. Je vous prends un exemple, la base de remboursement de la couronne dentaire, puisque a priori c'est le cœur de cette réforme, la couronne dentaire, c'est 107,50 € aujourd'hui.
C'est très cher.
C'est énorme, 107,50 €. Vous savez que c'est combien l'était en 1988, 107,50 € à l'époque où vous faisiez la conversion en francs.
Oui, non, mais je suis d'accord.
Et donc,
avec vous.
En 30 ans, j'avais 8 ans
tout,
à l'époque, je ne savais même pas que je voulais faire dentaire.
Que les dentistes fassent un petit effort sur leurs revenus. Beaucoup de catégories sociales ont fait des efforts sur leurs revenus en temps de crise. Les dentistes, non. Et sur le chiffre, là, j'ai des chiffres qui viennent de la CNAM. Hein, donc là, c'est la Caisse primaire d'assurance maladie. Et les soins prothétiques, enfin, ce que vous appelez ça, hein, les prothèses dentaires, c'est quasiment la moitié du renoncement aux soins pour raison financière. Donc c'est quand même extrêmement important. Alors, et on peut pas nier...
Oui, on peut pas non plus imaginer que la moitié des Français ait besoin de prothèses dentaires.
Non, j'ai dit que c'était des renoncements aux soins.
Et évidemment, puisque
une raison, ça. Pardon, excusez-moi de mêler de votre débat, mais c'est pas une raison.
D'accord avec vous. Mais je reviens quand même sur la prise en charge dans ce pays qui veut qu'il y ait une solidarité nationale. Je reviens dessus. 30 ans, zéro augmentation de la base de remboursement. Et après, on dira que la dérive vient de la profession.
Je ne veux pas qu'on oublie qu'il y a des auditeurs dans le téléphone sonne, si vous le permettez. Bonsoir Yves.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu, Yves, on vous écoute.
Bonsoir. J'appelle parce que j'ai vu mon dentiste il y a quelques temps. Je ne l'avais pas vu depuis assez longtemps, et je suis allé le voir parce que j'avais des gencives qui saignaient un petit peu. Et,
ça, c'est
et
sûr, le dentiste, c'est le gars qu'on va voir quand on a mal. Je sais que c'est pas bien.
C'est une erreur fondamentale.
Je suis avec vous sur ce coup-là, Yves, allez-y.
J'aurais peut-être pas dû. je suis allé le voir parce que j'avais une mauvaise odeur aussi dans la bouche, et il m'a diagnostiqué ce qu'il appelle une parodontite. Donc, il se trouve que moi, j'ai des petits soucis cardiaques, j'ai eu des petites alertes cardiaques, j'ai dans ma famille un risque cardiaque, et la parodontite, apparemment, d'après mon dentiste, hein, en qui j'ai toute confiance, il m'a dit que que ces parodontites-là pouvaient avoir un effet néfaste, enfin, pouvaient favoriser l'apparition d'un infarctus. Donc il m'a dit que ça pouvait se traiter, ça c'était la bonne nouvelle. Mmh. Par contre, voilà, bon, il m'a fait un devis, il m'a dit il y a plus de 4 heures de traitement, il m'a fait un devis.
Si on pouvait avancer vers l'autre question.
J'ai donné mon devis et j'ai zéro remboursement de la sécurité sociale, j'ai zéro remboursement de ma complémentaire santé. Qui m'a été imposé et voilà, et je ne comprends pas pourquoi, alors que pour moi c'est un très important pour ma santé d'une façon générale. Je comprends pas.
Et vous voudriez savoir si dans cette réforme on parle de ce genre de choses, par exemple.
Pourquoi est-ce que moi j'ai des prothèses dentaires, des couronnes dentaires, j'en ai pas besoin, quoi. Ça m'intéresse pas. Est-ce que la couronne dentaire c'est vraiment ce qui est important? Est-ce que le traitement des gencives quand c'est vital, quand c'est important pour la santé, est-ce que ça aurait pas été intéressant de prendre ça en charge?
On entend ce que vous dites. Est-ce qu'il y a des trous, béants, Mathieu Delbos, dans cette nouvelle réforme, selon
totalement.
Vous?
Totalement. Là, c'est l'exemple typique, d'ailleurs, puisqu'en fait, le traitement dont va bénéficier Yves, puisque j'ai cru comprendre qu'il allait se décider, va lui permettre de conserver le maximum de ses dents. On peut pas garantir qu'on puisse tout lui sauver. Effectivement, la parodontite, et c'est prouvé, c'est par exemple la 6e cause de complications du diabète. C'est aussi une étude taïwanaise qui nous parle de 25% de risque d'infarctus en plus, 13,5% de risque d'AVC en plus. Et donc, les nouvelles réformes, rien. Sur la parodontite, rien. Et pourtant, j'ai entendu ma ministre de tutelle parler des éléments qui n'étaient en dehors de ces deux paniers pris en charge comme des éléments superflus. Alors, si sauver les dents des patients, c'est superflu, j'ai dû me tromper de métier.
En attendant, donc, cette réforme mise en place et qui prendra effet donc à partir de 2020, puis on n'a pas fini d'en parler, y compris sur d'autres thèmes, puisque bientôt, ce seront les oreilles et aussi les yeux qui sont tout aussi importants pour les gens qui nous écoutent que leurs dents. Merci à tous et portez-vous bien.